Voilà, poursuivre donc en force Olivier Zerbib et Emmanuel Brandl qui vont s'installer. Oh, pardon, excuse-moi. Qui vont s'installer à la table. Oui. Deux sociologues qui sont intéressés donc à la question de l'emprunt de livres numériques dans les bibliothèques. Ah, il y a un petit peu d'installation technique. Donc Emmanuel Brandl vient de l'ENSIB, il est dans le département ENSIB Lab de l'ENSIB, donc qui s'occupe entre autres des activités de recherche, notamment sur les usages numériques. Et Olivier Zerbib vient de l'université de Grenoble-Alpes.
Deux mots d'ENSIB Lab, service département ou service de l'ENSIB, dont tu as vu le jour il y a 2 ou 3 ans, et qui n'est pas un laboratoire de recherche, mais un service, une cellule qui a plutôt pour vocation de mener des études au service de la communauté professionnelle et qui a pour thème central la question du numérique et plus précisément la question du numérique en bibliothèque. On travaille sur plusieurs axes, l'édition scientifique, l'innovation en bibliothèque et pour ma part sur la question du lectorat numérique en bibliothèque. Il me semble que de ce point de vue-là, d'ailleurs, enfin, en tout cas pour ma part, je me suis retrouvé face à un déficit de connaissances sur le lectorat numérique en bibliothèque. Après avoir exploré ça, notamment autour de ce dont il va être question aujourd'hui, c'est-à-dire de PNB, et plus précisément de la plateforme Bibook qui a été mise en place dans le réseau des bibliothèques municipales de Grenoble. Voilà pour le moment. Olivier.
Oui. Je retrouve mon mot de passe et tout va bien.
Donc on vous propose une étude. Alors j'étais pas présent toute la matinée, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais nous on va vous présenter des résultats d'études qui sont plutôt orientés usagers. Peut-être que ce matin c'était plutôt orienté côté professionnel, bibliothèque, service, etc. Nous plutôt du coup côté usagers. Voilà.
Ça va marcher, hein. Forcément.
Oui, oui, forcément, ça va marcher.
Hop. Non. Oh. Voilà. Parce que j'ai changé de mot de passe.
Ah, oui, c'est vrai, ça. Alors.
Mais c'est un peu de suspense, c'est tout.
Donc, voilà. Pour ma partie, on va pouvoir y aller, du coup.
Hop. Vous allez voir, ça vaut le coup. Hop. Voilà.
J'en profite pour remercier les organisateurs de la journée.
Et voilà.
Et on est très heureux d'être là avec vous. Et je cède la parole à mon collègue.
Bien, bonjour, désolé pour le petit moment de mise en place, mais on innove. Alors, un petit mot pour préciser que je vais vous parler d'une enquête que j'ai conduite également avec Marie Doga, qui est une collègue de l'Université Grenoble-Alpes. Qui n'est pas ici, mais que je représente au mieux, j'espère. Alors, on va vous parler un petit peu des problèmes que nous avons rencontrés pour conduire ces enquêtes et notamment exploiter les données d'usage dont on va vous parler. Ensuite, Emmanuel vous parlera un petit peu d'une entrée sur le catalogue. Je vous parlerai des usagers. On parlera tous les deux, mais je ferai un zoom un peu précis sur les usagers. Puis enfin, on parlera d'une partie un peu plus compréhensive, un volet de l'enquête sur lequel je reviendrai. Alors, concrètement, qu'avons-nous fait ? Nous avons d'abord, avec la collaboration de la bibliothèque de Grenoble, conduit une enquête auprès des usagers de la bibliothèque et non pas exclusivement des usagers de la plateforme de livres Bibook. Donc nous avons essayé de replacer ces usages de la plateforme Bibook sur l'ensemble des usages de la bibliothèque. Donc pour ça, nous avons fait une série d'entretiens pour comprendre un petit peu quels étaient les usages du livre numérique dans le paysage, puis quels étaient les usages de la bibliothèque. Nous avons ensuite élaboré un questionnaire, de mémoire une 60aine de questions et à peu près 100aine de variables auprès de 1300 individus sur 3 sites de la bibliothèque de Grenoble. Alors, des sites qu'on a essayé de faire varier en termes de profil de population. 1311 questionnaires exactement. Puis, une autre série d'entretiens auprès, cette fois, d'usagers de la plateforme en ligne Bibook. Nous avons également, Emmanuel, comme Marie et moi, analysé des données d'usage qui nous ont été livrées par la bibliothèque de Grenoble à 2 reprises différentes, en mars, puis en septembre. En mars 2015, puis en septembre. Et nous avons ensuite comparé ces données avec les données sur les publics de la bibliothèque qui a été produite en 2012. Alors voilà, concrètement, les données d'usage dont on parle, c'est ça. C'est pas très glamour, mais tu veux en dire un petit peu de mots sur...
Oui, oui. Donc, pour ma part, mon approche a été un peu plus restreinte que celle qu'ont menée Olivier Zerbi et Marie Dolia, puisque moi, je n'ai travaillé que sur les fichiers d'emprunt de Bibook. C'est plutôt une approche quantitative qui visait à caractériser, finalement, je mets des guillemets, le lectorat numérique de Bibook, et que j'ai cherché à mettre en relation de façon tout à fait classique des pratiques d'emprunt avec des variables, sales, âge, PCS, enfin, ou CSP, et puis origine géographique. Pour le dire rapidement, donc, pour ma part, j'ai travaillé sur 1528 téléchargements effectifs et environ 500, ce qu'on appelle des bibookies, 500 finalement personnes qui sont inscrites à la bibliothèque municipale de Grenoble et au service donc Bibook, sur la plateforme Bibook, entre septembre 2014 et mars 2015. Pas mal de difficultés finalement avec ces fichiers internes et strictement techniques sur la construction des colonnes et des lignes où il y a un certain nombre de données qui échappent à la compréhension. On s'y est penché avec la bibliothèque municipale de Grenoble et on a eu du mal à comprendre comment tout ça s'articulait avec des colonnes dont on ne connaissait pas tout à fait le sens. Donc du coup là on est en train de réfléchir à la façon dont ces fichiers sont construits. Après, il y a un certain nombre de données type PCS qui m'ont été transmises par la bibliothèque de Grenoble. Et là, c'est pareil, il y a un certain flou, non pas sur la catégorie en elle-même, puisque c'est issu des travaux, enfin, de l'INSEE, mais moi, j'avais 30 PCS différentes. Et donc, du coup, à partir de là, pour avoir des chiffres et des données un peu significatives, il a fallu opérer des agrégats, regrouper un certain nombre de PCS pour obtenir des données qui veulent un peu dire quelque chose. Ensuite, Olivier, lui, reviendra assez longuement, enfin un peu plus précisément, sur la catégorie des retraités, qui ressort nettement pour ce qu'on appelle les biboutis, donc en l'occurrence. Pour ma part, je ne pouvais pas du tout travailler sur ce type de catégorie, puisque moi j'ai une entrée CSP. Et dans la catégorie retraité, on va retrouver des CSP et on ne sait pas lesquels. Donc moi, du coup, pour moi, d'un point de vue quantitatif, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de retraités, mais je ne savais pas du tout quoi en dire. Donc c'est une catégorie que je n'ai pas du tout approfondie. Enfin et surtout, je dirais que la commande initiale, c'était de travailler sur le lectorat numérique en bibliothèque. Très clairement, c'est un abus de langage. Pour ma part, je n'ai pas travaillé comme le ferait une sociologie des usages avec une analyse de mise en relation de pratiques avec des variables et un travail sur les formes d'appropriation, donc une approche de l'expérience, de la lecture, de l'emprunt et du dispositif, ce que moi, je n'ai pas du tout pu faire, ce qu'Olivier, par contre, a plutôt fait, peut-être, hein. Et donc, du coup, parler de lectorat numérique, effectivement, c'est un abus de langage, et je parle plutôt d'emprunt de livres numériques.
Excellente transition, puisqu'effectivement, il faut bien comprendre que ces données sont des données qui sont des données d'une application qui est essentiellement orientée sur le catalogue de livres numériques. Ce ne sont pas des données qui sont produites pour comprendre les usages qui vont être faits de la plateforme. Donc en fait, on a des fichiers avec des ouvrages dont on sait beaucoup de choses. Ces ouvrages qu'on va, de manière un petit peu artificielle, coller à un fichier d'abonnés et d'inscrits. C'est la manipulation qui est faite, mais les données, elles ne sont pas produites pour comprendre les usages. À ce titre-là, les fichiers du catalogue que vous connaissez, enfin les fichiers du catalogue d'une part, puis les fichiers d'abonnés que vous connaissez également, sont des fichiers qui ne sont pas faits pour analyser les usages. Ce sont des données qui sont compilées essentiellement quand même pour des raisons tarifaires Et ce qui vous intéresse souvent, c'est de savoir si vous avez un actif ou un retraité. Vous ne faites pas, me semble-t-il, dans les bibliothèques, de suivi, d'actualisation des PCS non plus quand on rentre dans une bibliothèque et qu'on déclare une profession, jusqu'au moment où on va changer de statut professionnel, il n'y a pas de raison spécialement de l'actualiser. Or, on sait que les carrières peuvent évoluer et qu'on peut passer, par exemple, d'ouvrier à je sais pas, contremaître et puis après autre chose, éventuellement, pourquoi pas ingénieur. Là, nous, on n'a que des ouvriers, typiquement. Alors, on peut, mais voilà. En tout cas, sur l'évolution professionnelle, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne sait pas trop comment s'est donné son produit, qui remplit, quel est le niveau de formation des personnes qui remplissent ça. Et donc, les fiabilités sont assez problématiques, en dehors de données simples, comme on y reviendra, le genre, qui, en principe, bouge peu, mais quoique, et l'âge, qui bouge, parce qu'effectivement, on rentre une date de naissance et pas un âge précis. Bon. Ensuite, ces données sont, comme tu le signalais, Emmanuel, des données qui sont des traces d'usage et pas vraiment une quantification sur les usages. Alors, ce n'est pas propre à l'exploitation qu'on fait, parce que contrairement à ce qu'on vous dit sur le big data, la plupart des exploitations qui sont faites autour des usages sont des traces d'usage. Donc on sait comment un certain nombre d'internautes accèdent à des produits ou à des biens de consommation culturelle éventuellement, mais on ne sait pas ce qu'il en est fait derrière. Donc il y a tout un discours fantasmatique, mais je vous renvoie aux travaux de Dominique Boulier ou de Dominique Cardon autour de ces problématiques des usages dans deux ouvrages qui sont récents, La vie rêvée des algorithmes pour Cardon et puis des travaux de Dominique Boulier que vous retrouverez assez aisément, qui mettent en garde les sciences sociales et les citoyens en général sur le fantasme qu'il y aurait à comprendre tout de ce que font les individus en ligne à partir simplement de leurs traces d'usage, qui sont des traces qui sont très faibles et qui sont d'un matériau très pauvre finalement. Donc on a besoin pour travailler ces données, ce qu'on va faire un petit peu, d'essayer de les recontextualiser et de les placer avec d'autres éléments. Alors, en premier lieu, on a quand même des informations là qui sont pour le coup précises sur les catalogues.
Voilà, pour entrer dans le concret, le catalogue Bibout est composé donc de 501 titres, de 51 maisons d'édition, 409 auteurs et est de 65% de fiction. Ce qui semble intéressant, en tout cas dans ce catalogue, c'est qu'on a un monopole éditorial de la part de Gallimard, avec 24% du catalogue et 26% des auteurs. Mais on arrive juste derrière Flammarion, qu'on peut rapprocher de Gallimard, puisque Gallimard a acheté Flammarion, et on obtient alors un catalogue à 37% chez Gallimard Flammarion et 41% des auteurs. Voilà une schématisation, une visualisation pardon, du catalogue. Vas-y. Encore. Alors, intérêt pour le catalogue, on a 63% du catalogue qui a été téléchargé au moins une fois par une personne. On a 79% des livres numériques qui sont téléchargés moins de 5 fois. On a un genre littéraire qui est plébiscité, en relation aussi avec la composition du catalogue, hein, puisqu'on a 78% des emprunts qui se font en fiction. J'y reviendrai à un moment donné, parce que on a aussi bien des hommes que des femmes qui téléchargent de la fiction. On a donc eu 391 Bibouti actifs, emprunteurs actifs. Et pour la typologie, on a 90% des emprunteurs qui sont, qu'on pourrait qualifier de faibles emprunteurs, moins de 10 e-books. C'est donc ce qui ressort comme profil dominant du lecteur de livres numériques sur ce site-là particulier, qui est celui donc plutôt du faible lecteur et qui semble rejoindre une tendance plus générale qui est celle de l'évolution de la lecture aujourd'hui. Pour l'évolution dans le temps, alors elle ne se dément pas. Il est clair qu'on a une évolution et un accueil plutôt positif de Bibouk à la bibliothèque municipale de Grenoble, avec une évolution quantitative réelle dans le temps. On voit un saut, deux sauts quantitatifs au départ, et c'est l'effet qu'on pourrait attribuer à l'effet découverte, et un travail certain de médiation des bibliothécaires, et un deuxième saut quantitatif, juin-juillet 2015,
Alors, pour l'interprétation, c'est assez délicat, mais on voit qu'on est à l'approche des vacances scolaires et c'est lié à l'évolution aussi en parallèle du catalogue. Donc du coup, on peut en conclure en tout cas que l'intérêt aujourd'hui pour le catalogue de Bibook ne se dément pas. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans les usages, et qui, moi, m'a un peu étonné au départ, mais qui s'explique finalement, c'est que parmi les emprunteurs de livres numériques, j'ai 21% des emprunteurs qui empruntent à la fois des livres numériques et des livres papier. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben oui, il y a effectivement un cumul qu'on connaît déjà assez bien dans les pratiques de lecture. De fait d'un attachement, comme le montrent d'ailleurs les derniers travaux de Gérard Mouget, Xavier Zunigo et Paul Gaudrich, que l'attachement au livre papier reste réel dans la hiérarchie des valeurs symboliques, c'est-à-dire qu'il y a un attachement symbolique au papier, qui fait qu'on va vers le livre numérique, mais on reste attaché au livre papier, et donc du coup on cumule les deux pratiques, mais de façon un peu plus étonnante, il y a 38% des emprunteurs qui ont, je le note, le même profil sociodémographique que les premiers, qui n'empruntent aucun livre papier et exclusivement des livres numériques. Alors il est vrai que dans la même étude, on retrouve l'idée d'un rapport désacralisé au livre papier. En l'occurrence, on pourrait aussi parler de migration. Il faudrait rentrer dans le détail et rencontrer les personnes pour avoir une approche plus compréhensive des pratiques, pour essayer de mieux comprendre effectivement cet effet de migration, le passage donc, du livre papier, puisque l'adhésion à la bibliothèque municipale ne date pas de Bibook. Donc il y a eu un rapport au papier préalable et aujourd'hui un emprunt exclusif du livre numérique pour une quantité qui est finalement non négligeable des usagers de Bibook. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, ça c'est pas très lisible, effectivement, mais c'était intéressant, j'ai essayé de quantifier le nombre de maisons d'édition que chaque personne, en fonction de sa CSP, était allée visiter sur Bibook. Un peu comme on quantifie des visites via des logs, etc. J'ai quantifié le nombre de visites de maisons d'édition par CSP. Ce qui sort assez clairement, c'est qu'on a un nombre de visites de maisons d'édition qui est socialement inégal. Et en fonction de la CSP d'appartenance, on visite plus ou moins de maisons d'édition. Pour la petite histoire, la catégorie ouvrier, effectivement, est très clairement en dessous du reste. Bon, statistiquement, ça ne signifie rien puisqu'ils ne sont que 5. Par contre, d'un point de vue ethnographique ou ethno-méthodologique, on pourrait dire que ça peut être intéressant dans le sens où on peut supposer, mais à moins qu'ils fassent partie de la même famille, que les gens ne se connaissent pas, et pourtant, ils ont la même attitude. En tout cas, ce que j'ai qualifié, en tout cas, d'une forme de curiosité littéraire qu'on retrouve socialement inégale dans les pratiques d'usage de Bibook.
Voilà, donc, on va essayer de qualifier un petit peu ces usagers de la plateforme Bibook. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de les comparer par rapport à d'autres données d'enquête. Alors, les données d'enquête qu'on a fait passer auprès des 1300 personnes dont je vous parlais, les données qui sont celles de la bibliothèque en 2012, donc une entrée sur la sociodémographie de ces publics, et puis un zoom sur les individus dans l'enquête que nous avons conduite qui se déclarent lecteurs de livres numériques, donc qui ont répondu oui à... Avez-vous lu un livre numérique durant les 12 derniers mois ? Alors, vous voyez en bas les données d'usage de Bibook, qui nous indiquent qu'il y a 46% de cadres. Je fais une petite parenthèse quand même, en montrant qu'à l'exception notable des agriculteurs, on a à peu près tous les profils. Ce n'est pas totalement anodin, donc c'est l'usage du livre numérique, de la plateforme de livre numérique, ce n'est pas qu'un truc de cadre, typiquement. Alors, ça pourrait être le cas, ça ne l'est pas. Et c'est plutôt à l'image de la bibliothèque globalement, avec quand même une légère sous-représentation des cadres qui sont moins nombreux que ce qu'on pourrait s'y attendre quand on les réfère à aux données d'ensemble de la bibliothèque, où ils sont 52% et non pas 46%. Et si on les compare, par exemple, à peu près à l'enquête quantitative, c'est à peu près le même genre. Par contre, à la question « Êtes-vous lecteur de livres numériques ?», nous avions plus de cadres qui avaient répondu. Donc 57%, on y reviendra. Mais globalement, Bibook pourrait être davantage surreprésenté en cadre qu'il ne l'est. Et ce n'est pas le cas, on verra des éléments de réponse par la suite. Bon. Donc on a globalement une dominance, prédominance des professions intellectuelles supérieures, mais qui n'est pas non plus majeure. En termes d'âge maintenant, est-ce que l'usage du livre numérique, c'est quelque chose, un truc de vieux ou un truc de jeune, dynamique, geek ? Là aussi, on fait la même chose. On va les comparer. Je ne peux pas les comparer avec les données d'enquête de la bibliothèque parce que, comme vous le savez, elles sont figées et elles ne correspondent pas forcément à ce qu'on peut comparer, en tout cas pas avec les données Bibook. Donc, on ne peut pas malheureusement les référer, mais on va regarder par rapport à l'enquête quantitative qui était assez proche finalement des données de 2012. Alors, on a un effacement très net des plus jeunes, des moins de 25 ans, qui sont beaucoup moins nombreux, donc ils sont dans cet échantillon des données d'usage 7%, alors que dans notre échantillon d'enquête, ils sont près de 20%. Quand on demande à nos enquêtés là s'ils ont déjà lu des livres numériques, nous avons près de 30% de moins de 25 ans qui ont déjà lu un livre numérique. D'accord ? Donc globalement, on a une sous-représentation très nette et au contraire, une tendance à avoir une surreprésentation des classes moyennes et puis des plus âgés. Les choses se compliquent un peu quand on s'intéresse par contre aux fréquences, aux intensités d'usage, puisque les plus jeunes ont certes déjà lu un livre numérique, mais globalement c'est un livre numérique, un ou deux. Et quand on s'intéresse aux intensités, les plus âgés, ou en tout cas les catégories d'âge moyen de 36 à 55 ans, ont des intensités d'usage de livres numériques qui sont plus fortes. Donc on va dire que les Bibooks, ça va mobiliser davantage des lecteurs réguliers de livres numériques. Réguliers, tout en sachant, comme on vous l'a dit, que c'était pas beaucoup de livres numériques non plus. Alors, les données de provenance, bon, elles sont à peu près, elles sont sans surprise aussi. Globalement, Bibooks, ça recrute des lecteurs qui sont pas que grenoblois. Il y a une extension du domaine de la lutte, dirait-on, à Grenoble-Alpes et puis à d'autres. D'autres provenances, c'est normal puisque c'est une expérimentation dans le cadre de PNB. Il y a sans doute certains d'entre vous qui sont inscrits à Bibook et qui ont emprunté des livres et qui rentrent dans notre échantillon. La proportion homme-femme maintenant, là aussi, sans surprise, il y a une prédominance des femmes. Et par contre, si on imaginait que l'usage du livre numérique était quelque chose qui concernait davantage les technophiles et les geeks, ben on va être déçu, puisque si geeks il y a, ce sont plutôt des femmes, puisque Bibook marque une surreprésentation encore accrue des femmes qui sont près de 71%, alors qu'elles représentent 63% de l'échantillon global de la bibliothèque. Donc elles sont surreprésentées, et on verra pourquoi. Alors maintenant, sur la base des données qu'on avait, on a utilisé une donnée toute bête qui consiste à savoir quand ce service a été découvert en premier. Donc vous voyez en bas, sur l'ensemble de l'échantillon des données d'usage, on a 36,5% des inscrits à Bibook qui l'ont découvert dans les trois premiers mois. Puis 20% qui l'ont découvert durant le premier semestre, et puis le reste qui l'ont découvert six mois ou après le lancement. D'accord ? Ça c'est l'ensemble, et c'est par rapport à ça qu'on va le comparer. On se rend compte que les jeunes, les plus jeunes, ne sont pas du tout les premiers à l'avoir découvert. Les moins de 25 ans sont à peu près dans la moyenne, et puis que ceux qui l'ont découvert en premier, massivement, sont quand même, enfin de manière assez nette, sont plutôt les 45 à 64 ans. D'accord ? Et puis, au contraire, ben voilà, à contrario, ceux qui l'ont découvert le plus tard sont plutôt un peu les plus jeunes, qui sont surreprésentés. Donc on mobilise davantage des publics d'un âge moyen à moyen supérieur, on va dire. On peut s'intéresser à l'inscription dans la bibliothèque, cette fois, en constatant de manière assez nette que ceux qui ont découvert Bibook en premier sont ceux qui sont inscrits depuis plus longtemps dans la bibliothèque, ceux qui ont une fidélité, une ancienneté la plus marquée. Alors que ceux qui sont arrivés plus tardivement, moins de 2 ans d'inscription, sont très nettement sous-représentés. On a 25% des individus qui sont inscrits depuis moins de 2 ans à la bibliothèque, alors que qui l'ont découvert dans le premier trimestre, alors que cette population-là, c'est pas loin de 37%. Regardons la CSP maintenant. Sur l'ensemble qu'on retrouve en bas, on voit assez nettement que les actifs sont un petit peu surreprésentés. Donc ceux qui l'ont découvert en premier sont plutôt des actifs, et les retraités ou les élèves étudiants l'ont fait plutôt avec un petit peu de décalage, un peu plus tard. Alors, bilan provisoire. On a des jeunes et des CSP+, qui sont un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on sait des profils de lecteurs d'e-book dans notre enquête, avec un âge moyen qui a 48 ans et des professions supérieures qui sont environ de 56%. On a une légère surreprésentation des femmes et des retraités. Et ce qu'on peut constater, j'y reviendrai un petit peu avec les entretiens, c'est que globalement, là, cette plateforme de livres numériques s'inscrit largement dans le dispositif de médiation en salle. Donc pour connaître Bibook et pour l'utiliser, il faut être un usager régulier des services de la bibliothèque. Ça s'inscrit dans deux choses, donc une tendance effectivement à être converti entre guillemets ou à découvrir l'offre parce qu'on va y être exposé déjà. Plus on va rester longtemps dans la salle de lecture, plus on a des chances de voir que Bibook est lancé. Et plus on peut échanger avec les bibliothécaires, première chose. Deuxième chose, ceux qui font un usage le plus éclectique des dispositifs de l'offre de la bibliothèque sont également ceux qui vont se lancer dans une nouvelle pratique qui va être l'emprunt sur un dispositif numérique. Ça, c'est typiquement ce que disait tout à l'heure Emmanuel sur l'éclectisme culturel, un constat que la sociologie de la culture fait depuis les années 60 avec Peterson. Être cultivé aujourd'hui, c'est pas explorer des formes culturelles de manière intense, fût-elle savante, c'est plutôt être capable d'être curieux de beaucoup de formes culturelles différentes et donc éventuellement de s'emparer d'une offre de prêt de livres numériques.
Voilà, juste c'est ce qui traduit la curiosité littéraire. Juste une petite incise quand même sur les emprunts. Tout à l'heure, tu as noté une partie non négligeable de professionnels de Bibook. Si on analyse d'un point de vue quantitatif les emprunts, par contre, on s'aperçoit que ceux qui empruntent le moins et au final ceux qui n'empruntent plus, ce sont d'abord les professionnels des bibliothèques.
Bim. Alors maintenant, ça c'était pour les aspects un peu quanti, hein. On vous a donné du chiffre, sinon on n'est pas sociologue. Voilà. Maintenant, on a également fait une approche qui va être un peu plus compréhensive. On a essayé de comprendre le rapport qu'entretenaient les usagers de la bibliothèque avec cette plateforme, et en essayant de les replacer à la fois dans le rapport qu'ils entretiennent avec le livre en général, avec la bibliothèque en général et avec le numérique en général. Donc, on a élaboré une grille d'entretien qui permettait d'essayer de comprendre la place de cette pratique d'emprunt du livre numérique dans d'autres types de pratiques. Alors, je vais revenir en deux points, mais globalement, on note bien cet effet de l'insertion du dispositif dans les logiques traditionnelles de médiation de l'offre. Donc, ce n'est pas un service qui est en dehors de la bibliothèque et qui est très intégré, on reviendra pourquoi, du côté des usagers, mais aussi du côté de l'offre et de la façon dont concrètement elle est faite. Et puis, des usages qui vont être conformés par la généalogie des dispositifs et des usages préexistants. Là aussi, ce n'est pas une surprise en sociologie de la culture ou en sociologie des technologies numériques. On n'a pas une pratique qui va faire table rase et révolutionner les pratiques antérieures. Alors, pour faire ça, pour essayer de mieux comprendre, on va zoomer sur une catégorie qui est celle des seniors. Donc ceux qui sont retraités et un petit peu plus âgés, et essayer de comprendre comment ils rendent cohérentes leurs pratiques, comment cette pratique elle tient ensemble avec d'autres pratiques, des pratiques numériques et des pratiques de lecture. Alors, première chose, c'est que ces lecteurs de livres numériques avaient pour la majorité une antériorité assez forte de pratique de lecture sur écran, une pratique qui était souvent une pratique professionnelle, et donc ils avaient des habitudes de lecture numérique dans le cadre de métiers exercés auparavant, donc bibliothécaire typiquement, mais d'autres aussi, d'autres formes de travail en bureau. Et à ce titre-là, la découverte du livre numérique a été rendue possible parce que c'était envisageable de passer du temps à lire sur un écran. Alors, lecteurs de livres numériques pour nous, ce sont des lecteurs d'e-books sur ordinateur, sur tablette, majoritairement sur tablette, un petit peu sur liseuse aussi. On est dans la moyenne des études qu'on a qui sont faites sur ces questions-là, environ 15% de lecteurs sur liseuse et puis une majorité de lecteurs sur tablette. Le recours au livre numérique, ça se fait parce que c'est une forme d'optimisation et d'efficacité dans un mode de vie qui est un mode de vie nomade. Vous savez qu'être retraité aujourd'hui, c'est pour l'instant en tout cas avoir un niveau de vie qui est intéressant pour pour Grenoble en tout cas, quand on parle de cadre sup, donc de gens qui voyagent beaucoup et pour qui c'est pratique de pouvoir charger sa liseuse ou sa tablette avant de partir pour ne pas manquer. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être pris au dépourvu quand on part un peu longtemps, ou de pouvoir lire dans les transports, ou de pouvoir lire dans les files d'attente. Et on a beaucoup d'entretiens qui témoignent de ce passage du livre numérique au livre imprimé, selon les circonstances, éventuellement le même livre qu'on va partager, qu'on va parcourir d'un support à un autre. Donc, ce sont des aspects pratiques qui dominent. Et puis, des éléments sur la découverte littéraire et l'éclectisme culturel, dont on a déjà parlé. Donc un livre numérique souvent qui s'inscrit dans des pratiques de lecture intense, avec des partages, et j'y reviendrai, quand même des problèmes qui sont liés à la circulation du livre numérique. Et puis éventuellement des redécouvertes de classiques, puisque dans notre échantillon, un grand nombre de lecteurs de livres numériques lisent surtout des livres numériques qui sont gratuits et mis en ligne sur des sites assez ouverts ou téléchargés dans des bibliothèques. Effectivement, un petit peu ancien. Ces pratiques des seniors sont largement référées à leur façon d'habiter la bibliothèque. Alors, on a, on vous l'a dit, des jeunes qui sont en retrait sur presque toutes les formes d'emprunt, mais qui sont en retrait sur toutes les formes d'emprunt en bibliothèque. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Les plus jeunes ne sont pas forcément ceux qui restent, enfin, pas forcément ceux qui sont les plus présents en bibliothèque. Et même s'ils restent longtemps en bibliothèque, ils utilisent assez peu les services de la bibliothèque. Et à contrario, les retraités sont parmi les premiers cercles d'usagers des bibliothèques, ceux qui sont les plus fidèles, les plus exposés aux logiques de médiation et aux informations qui sont liées à cette plateforme Bibook. Alors, vous n'êtes pas grenoblois, mais si vous étiez grenoblois, vous verriez que pour connaître Bibook, notamment dans les premiers temps, il fallait vraiment être en bibliothèque. Même s'il y a une campagne d'affichage dans la ville pendant un moment, on a connaissance de dispositifs qui permettent d'être absent des salles de lecture qu'en allant dans les salles de lecture. Donc plus vous y passez du temps et plus vous avez des chances, comme je vous l'ai dit, de développer un usage. De ce fait-là, on a une continuité des pratiques entre la bibliothèque et Bibook, mais qui est liée au fait que dans le dispositif, ce dispositif est pensé en continuité avec la bibliothèque. Pourtant, nos lecteurs montrent une volonté de dépasser les contraintes de la bibliothèque en restant moins longtemps, en gérant leur temps de façon le plus pratique possible. Et je vous l'ai dit, ils partent souvent en vacances, ils aimeraient bien pouvoir se charger un maximum sans être trop dépendants de la bibliothèque. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur impose un mode de fonctionnement qui est assez proche de l'emprunt en salle, voilà. Alors qu'on pourrait envisager les choses différemment. J'y reviendrai un peu, mais ils ont une assez grande méconnaissance de la façon dont vous gérez vos catalogues et dont vous gérez vos droits de prêt. Et en l'espèce, quand on leur demande ce qu'ils imaginent, ils imagineraient avoir accès à un catalogue qui soit absolument le catalogue homothétique par rapport au catalogue des livres imprimés. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur limite l'emprunt à un certain nombre de livres, parce que potentiellement, ils pourront en emprunter énormément. Voilà. Alors, puisqu'on n'est pas dans un espace physique, pourquoi on a les mêmes contraintes ? En même temps, ils ont un souhait paradoxal de prolonger le même modèle de lecture publique avec des formes de sociabilité, d'autonomie, d'échange qu'ils ne trouvent pas nécessairement dans la sphère de livres numériques. Alors, à ce titre-là, les DRM, tout ce qui limite et entrave la circulation des livres est mal compris et mal pris pour les lecteurs pour qui un livre, c'est quelque chose qu'on emprunte, qu'on laisse... qu'on fait circuler au sein de la famille. Et là, en dehors du fait de faire circuler la tablette, il est compliqué de passer dans sa famille ou dans son cercle proche un livre qu'on a emprunté pour soi. Et ce n'est pas bien compris. Donc, Emmanuel l'a dit, la hiérarchie des valeurs sont conservées. Il y a un attachement très fort au livre imprimé, même si on va faire le livre numérique. Et cette présence du livre numérique, elle est négociée, évaluée selon les circonstances, d'autant plus fortement que l'usage du livre numérique est controversé. Il est controversé pour vous. Je ne vais pas faire état des débats qui vous agitent autour de PNB, de ce type d'expérimentation, mais il est controversé aussi pour les lecteurs, à qui on reproche souvent de tuer le livre imprimé. Donc on a des témoignages comme ça de lecteurs seniors qui nous expliquent que d'abord, quand on leur a offert une liseuse, souvent leurs enfants ou petits-enfants, ils ont fait la gueule. Et puis quand ils ont commencé à s'en servir, on leur a fait la gueule. pour leur reprocher de mettre en danger les libraires et la chaîne du livre en général, avec, je vous l'ai dit, une très grande méconnaissance des acteurs de la chaîne du livre et de la façon dont les offres leur sont faites. Donc ils n'ont pas beaucoup de cartouches pour se défendre et donner un sens un peu durable à leurs usages du livre numérique pour l'instant. D'autant qu'ils vont acheter ces livres numériques souvent sur des plateformes comme Amazon ou autres qui n'ont pas forcément bonne presse. Assez peu le télécharger illégalement, il y a peu de piratage, et puis beaucoup d'emprunts et d'achats sur des plateformes qui sont des plateformes un peu mainstream, donc un usage qui reste quand même largement culpabilisé pour l'instant. Donc, en élément de synthèse, se familiariser avec Bibook et l'inscrire dans ses usages, c'est l'inscrire dans l'usage du livre numérique à la croisée de la bibliothèque et des usages qui vont être des usages plus ordinaires du numérique, avec des attentes qui sont aussi des attentes qu'on retrouve sur leurs usages du numérique, puisqu'on a affaire à des lecteurs qui sont assez engagés dans leur pratique culturelle et qui ont l'habitude de discuter de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux ou sur des forums, et ils ne trouvent pas ces fonctions sociables pour l'instant dans leurs usages autour du livre numérique, alors qu'ils ont ces fonctions sociables en bibliothèque. Pour l'instant, ils ont encore un usage assez solitaire de la plateforme et une volonté qui est venue spontanément de partager leur expérience de la plateforme numérique. Je vous donne un exemple très bête. On a eu plusieurs fois la question de savoir combien est-ce qu'ils étaient à utiliser Bibook. Ils ne savaient pas bien s'ils étaient 10, 20, 30, 40, 50 ou 800. Donc ils étaient tout surpris quand on leur donnait les chiffres. Bah, effectivement, plusieurs centaines et pas « non, vous n'êtes pas 5 ». Vous n'êtes pas 10, et c'est un élément assez important de sociabilité tout bête auquel on n'est pas confronté quand on est dans une bibliothèque et qu'on voit que le samedi il y a du monde ou au contraire il n'y a personne. C'est des éléments qui sont de sociabilité qui sont manquants.
Alors du coup, vous m'aurez compris, pour ma part j'ai plutôt taillé à la hache qu'à la faucille, comme le fait Olivier. Mais quand même, globalement, on va, quant au profil type du Bibooki, plutôt retrouver une distribution sociale qui va être celle des pratiques culturelles. Donc avec une surreprésentation des CSP+, et donc un questionnement sur l'impact du numérique et notamment des plateformes de prêt de livres numériques sur des stratégies de démocratisation de l'accès à la culture, au savoir, à l'intérieur des bibliothèques. Ce qui, pour ma part, moi, je voulais voir un questionnement, m'interroge sur une notion que je pense tout le monde connaît à peu près ici, qui est celle de capital culturel, qui a été élaborée dans les années 60-70 par un sociologue, Pierre Bourdieu. Et du coup, je me dis, mais je me questionne sur la place du numérique dans ce capital culturel, ce qui n'est pas une question tout à fait anodine au moment où les équipements culturels et spécifiquement les bibliothèques développent toute une dimension justement qui va vers le numérique. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet contraire à ce qu'on produit, puisqu'on a une offre qui est orientée sur le numérique, mais peut-être un capital culturel des individus qui n'est pas encore structuré autour du numérique. En tout cas, je pense que le numérique devient peut-être un élément constitutif du capital culturel du 21e siècle. C'est une question. En tout cas, on constate aussi une féminisation et un vieillissement du lectorat, en l'occurrence, ce qui nous ramène à une évolution globale des pratiques culturelles et des pratiques de lecture depuis les années 60-70, encore une fois. On a une féminisation de la lecture, une diminution de la part des hommes qui lisent, et un vieillissement, ce qui nous renvoie aussi globalement à la structure des publics des bibliothèques. Mais par contre, ce qu'on constate alors, c'est que le profil type du lecteur de livres numériques qui a été quand même assez largement diffusé via des enquêtes menées par Opinionway, Ipsos, etc., et qu'on va retrouver sur Internet, et qui va considérer le lecteur de livres numériques comme un homme d'une trentaine, quarantaine d'années, CSP+, urbain, eh bien, on peut dire que finalement, ce n'est pas le profil type du lecteur de livres numériques, puisqu'en l'occurrence, on ne le retrouve pas.
Alors du coup, il y a un biais qui apparaît quelque part, et peut-être justement dans les dispositifs qui sont mis en place pour l'accessibilité aux livres numériques, faisant encore une fois une place prépondérante à la technologie en la matière. Et sur la diversification des pratiques culturelles, je dirais simplement que quand j'ai parlé tout à l'heure de curiosité littéraire, effectivement socialement inégalement répartie, mais on s'aperçoit quand même qu'on va la retrouver un petit peu partout, sauf exception chez nos ouvriers. Mais du coup, ça pose aussi la question de l'impact du numérique, non pas peut-être sur la démocratisation de l'accès à la littérature, mais peut-être sur un moyen d'accès ou un moyen qui facilite l'éclectisme des pratiques de lecture. Tout simplement, peut-être parce que, encore une fois, il faudrait rentrer dans, plutôt préciser les choses, mais peut-être parce que, simplement, dans une bibliothèque, on ne va pas se promener dans tout l'espace de la bibliothèque, alors que là, sur Bibout, on a accès à l'ensemble de l'offre de livres numériques. Et donc, du coup, on va pouvoir visiter, avoir une diversification des approches des maisons d'édition et des ouvrages qu'on va trouver à l'intérieur des maisons d'édition, qui n'ont pas, encore une fois, toute la même valeur symbolique. Hein. Être publié à la Pléiade pour un auteur, ce n'est pas être publié en livre de poche. Mais là, en l'occurrence, on va trouver cet éclectisme des pratiques de lecture via un dispositif numérique. Donc là, il pourrait trouver toute sa place, peut-être.
Alors, ce que je trouve intéressant à titre personnel, c'est que ce type de données donne l'occasion aux bibliothèques de s'interroger sur effectivement leurs usages pour essayer d'éviter un petit peu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par le passé. Et typiquement, c'est intéressant de voir les bibliothèques des villes nouvelles où un certain nombre de propositions architecturales ou documentaires ont été faites en rapport à un public qui était un public un peu rêvé, espéré, prescrit, on va dire, et pas tellement un public qui était constaté. Là, ces données d'usage permettent de s'interroger sur ce qui est fait d'une offre et d'interroger cette offre en même temps que les usages. Alors souvent, quand on parle d'innover par les usages, on se dit il suffit de constater les usages que vont faire les publics pour s'adapter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des usages qui sont faits, qui répondent aux propositions et aux catalogues qui sont mis à disposition. Catalogue et puis dispositif. Donc là, on vous a parlé d'une continuité assez grande entre le livre imprimé et le livre numérique, mais le livre numérique est largement construit dans des offres qui sont très homothétiques par rapport au livre imprimé. Donc constater cette continuité n'est pas spécialement choquant dans la mesure où ce dispositif il est assez proche de ce qu'on fait pour le livre imprimé, qu'on soit bibliothécaire ou libraire. C'est également le cas sur la continuité entre ce dispositif-là et puis ce qui est fait en bibliothèque en général, dispositif bibliothèque, puisqu'on n'a pas un dispositif qui est constitué en rupture. Typiquement, pour s'inscrire, je vous l'ai dit, à Bibook, il faut être présent en salle de lecture. Puisqu'il faut être inscrit, on pourrait envisager le fait que ce dispositif soit accessible absolument à tout le monde, sauf à ceux qui sont déjà inscrits en bibliothèque. Pourquoi pas ? Ce n'est pas la proposition qui est faite. Donc, on n'a pas de rupture. Ça pose plein de questions, évidemment, plein de problèmes de droit, mais on pourrait imaginer des collaborations avec des comités d'entreprise ou d'autres choses. Ce n'est pas du tout la proposition qui est faite. Donc, on constate bien une logique d'usage qui est celle de la bibliothèque pour des publics qui fréquentent avec assiduité une assiduité plus ou moins grande, les bibliothèques. Alors, par contre, c'est effectivement une possibilité de réfléchir d'abord en amont sur les modes de production des données. Comment est-ce qu'on pense les publics au moment où on les inscrit ? Typiquement, ce que je vous disais sur le fait qu'on ait une entrée tarifaire, ce n'est pas une entrée qui est une entrée qui est très compatible avec le fait de penser les usages. Donc, on reprend plus ou moins des données INSEE, mais sans vraiment l'assumer. On n'a pas des catégories qui sont des catégories sociologiques ou des catégories pensées autour de l'usage et de la lecture. On pourrait imaginer la constitution de catalogues et d'informations sur les lecteurs qui vous permettent d'avoir des renseignements sur les usages et pas uniquement sur le catalogue. Il y a des choses à faire dans cet esprit-là pour essayer de normaliser un peu les catégories qui vont être produites et puis essayer de les actualiser un peu. Tout bêtement, je vous l'ai dit, il n'y a pas moyen de comparer les données de la bibliothèque avec les données de l'INSEE pour savoir si les populations qui fréquentent la bibliothèque sont les mêmes que celles qui fréquentent la ville en général, quel est le niveau de surreprésentation, tout ça, c'est impossible pour l'instant, puisqu'on a des tutelles qui ne font pas les mêmes demandes, donc il y aura un travail de normalisation, et puis de mise à jour de ces données-là, Et déjà, si on est là-dessus, on est déjà sur une approche un peu compréhensive des publics. Ensuite, pendant l'utilisation des données, ben, il faut essayer de compléter et de comparer un peu ces données-là. Et puis surtout, pour utiliser ces données, il ne faut pas faire ce que fait Facebook, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser le service avec une case à cocher et pas d'informations du tout sur ce qu'on fait, mais au contraire, la possibilité d'ouvrir un débat sur les usages qui peuvent être faits de ces données et les services qu'ils peuvent rendre. À ce titre-là, si les bibliothèques souhaitent exploiter les données d'usage, elles vont devoir faire un peu de pédagogie sur l'exploitation des données d'usage et, puisque vous traitez beaucoup de la société de l'information, sensibiliser au fait que d'autres services auxquels on souscrit n'ont pas tout à fait les mêmes scrupules et vous informent moins des usages qui sont faits des traces de consultation qu'on laisse. Et donc, ces dispositifs-là peuvent être une occasion d'ouvrir un débat sur le big data, l'open data et l'utilisation qui est faite des données des services. Alors souvent, les services juridiques disent c'est pas possible, on peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Bon, il faut sans doute faire bouger un peu les lignes pour que ce soit possible d'utiliser des données et de permettre typiquement à nos lecteurs de livres numériques de savoir combien ils sont en ligne, de savoir qui sont les autres lecteurs et proposer d'autres formes de médiation que ce que proposent typiquement les grands éditeurs ou distributeurs qui consistent à dire ceux qui ont aimé cet ouvrage vont également consulter ça, donc renvoyer les lecteurs à ce qu'ils sont déjà, alors que pour vous qui êtes bibliothécaire, l'idée c'est de renvoyer plutôt les lecteurs à ce qu'ils ne sont pas et donc faire quelque chose du type ceux qui ne vous ressemblent pas ont lu ça, vous avez 65 ans et ceux qui en ont 20 lisent ça, vous êtes en train de vous intéresser attention à un ouvrage de quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous et qui vous ressemble, potentiellement gagner 15 ans, allez le dire tout de suite. Il y a des choses que vous pouvez faire en termes de médiation, mais pour ça, il faut que vous ayez bien une identification des usages, des usagers, et que vous puissiez proposer d'autres choses. Et donc, comme je vous l'ai dit, être en contraste avec un lire ensemble numérique qui soit autre chose que ce que proposent les grands acteurs du web, qui sont plutôt sur une utilisation des données d'usage maigre, je vous l'ai dit, mais qui sont assez quand même sophistiqué dans le type de propositions qui sont faites. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit là. Rentrer dans des problématiques de captation des publics, ce qui est fait sur le web en général, et c'est de comprendre la façon dont on peut fidéliser des publics, dont on peut leur proposer un bien d'expérience, une expérience, puisque le rapport au livre, c'est avoir à faire une expérience, et puis suivre ces publics dans le temps, dater un certain nombre d'événements, et puis les suivre temporellement. Ce qu'on ne peut pas faire, nous on fait des sondages régulièrement, mais on pourrait effectivement suivre dans le temps la réception de tel ou tel livre. Est-ce que les lecteurs se mobilisent par rapport aux sorties littéraires? Qu'est-ce qu'il devient de tel ou tel lecteur? Est-ce que les carrières de lecteurs suivent une courbe ascendante ou pas? Est-ce que la bibliothèque change les pratiques de lecture ou pas? Tout ça, vous ne pouvez pas le faire pour l'instant, mais avec les données d'usage, potentiellement, vous pourriez le faire sur les livres numériques, mais aussi sur les livres imprimés, puisque vous avez ces informations aussi. Voilà, donc au-delà de Bibook, il y a une réflexion possible sur tous les dispositifs, le catalogue, les formes de prescription et de médiation, et puis leurs effets sur les publics, à condition de ne pas penser que les usages, mais de penser aussi vos dispositifs et la façon dont vous pensez vos dispositifs et vos publics. On espère y avoir contribué un petit peu aujourd'hui.
Oui, non, juste une chose. Sur la normalisation des données, ce n'est pas qu'un truc de sociologue. C'est-à-dire que à un moment donné, on souhaite évaluer PNB au niveau national, on va se retrouver devant une difficulté certaine de savoir comment sont enregistrées les données d'emprunt à l'intérieur de chaque bibliothèque. Et si on se retrouve avec des fichiers qui sont construits de façon tout à fait différente, avec des catégories qui sont tout à fait différentes, la comparaison va être compliquée, alors qu'il y a un intérêt à le faire au moment où on place l'usager au centre des réflexions qu'on porte sur les dispositifs qu'on met en place, notamment en bibliothèque. Voilà, on vous remercie.
Merci.
Si j'osais, je dirais que vous avez beaucoup de données à propos de peu de lecteurs. Nous, c'est souvent l'inverse. Très peu de données à partir d'un nombre de lecteurs, même s'il est un peu en diminution, un peu plus élevé. Vous avez sans doute des questions.
Ouais, ouais. Non, j'avais une remarque, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, effectivement, de, des études qu'on peut suivre, on se dit que la lecture numérique, ça va pas de soi. C'est-à-dire, autant Internet, je trouve que ça va de soi. C'est-à-dire, on a vu vraiment des choses se passer, autant la lecture numérique, ça coule vraiment pas, quoi. C'est, limite, c'est le mot forceps qui me vient un peu à l'esprit au fur et à mesure des mois et des années. C'est-à-dire, vraiment, on se dit, mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est ça va pas de soi. Et finalement, c'est vrai que c'est la première fois que je vois aussi radicalement l'idée que c'est pas du tout un outil de démocratisation de la lecture. Quand on voit vos chiffres, finalement, on se rend compte que les jeunes s'y intéressent pas du tout. Et finalement, après réflexion, on se dit que c'est un outil d'approfondissement de lecture, parce qu'on voit que c'est des publics. Moi, je l'ai constaté aussi. En posant la question des fois à des gens dans la bibliothèque, ben on se rend compte que c'est les gens qui sont déjà sensibilisés à la lecture, qui sont super intéressés par notre offre de bouquets numériques. Donc ce n'est pas démocratisation, c'est plutôt intensification de la lecture. On voit que les dispositifs, finalement, ce n'est pas très étonnant que ça n'attire pas les jeunes, parce qu'une liseuse, moi j'utilise aussi bien tablette que liseuse, mais je ne suis pas un jeune, justement. C'est un modèle complètement homothétique, dans un univers où le... où la forme du livre n'est pas très, très en vogue. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant comme innovation. Enfin, plus on y réfléchit, c'est finalement une innovation, je ne sais pas comment dire, pas très novatrice, et sur laquelle on porte beaucoup, beaucoup d'efforts pour... alors, beaucoup de données et pas énormément de lecteurs, oui, c'est un peu ce qu'on pense tout le temps... Sur la démocratisation, est-ce que je dis une bêtise en disant que c'est pas un outil de démocratisation de lecture? C'était juste.
Alors, l'enjeu, assez souvent, comme face à ce type d'innovation, c'est que l'enjeu central, c'est l'enjeu de l'accès à la lecture et au goût de lire. Donc, à ce titre-là, le livre numérique est pas différent. L'enjeu, c'est bien d'avoir envie de lire et trouver les moyens de satisfaire une curiosité. Donc, le travail est le même pour moi que vous avez à relever face au livre imprimé ou au livre numérique, clairement. À ceci près qu'effectivement, les collections de livres numériques, le catalogue ne sont pas tout à fait homothétiques et que vous n'avez sans doute pas tout à fait les mêmes marges de manœuvre sur du livre numérique et sur un livre qui ne l'est pas. Donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile de se payer le luxe typiquement de mettre en ligne l'accès à 50 000 versions de Harry Potter et de griller tous vos jetons auprès de vos fournisseurs de services pour ça. Ça pourrait être le cas, mais je pense que c'est peut-être compliqué à défendre politiquement. Ça, c'est la première remarque. Donc, c'est à la fois des choses qui ont trait à la socialisation du livre en général, et donc avec des institutions qui dépassent les bibliothèques et qui vont vers l'école aussi, avec des moments où être lecteur, c'est apprendre le goût de lire. Et donc, si on s'intéresse au public adolescent qui sont lecteurs, il y a un attachement encore plus fort au livre imprimé qu'à d'autres, parce que cette identité de lecteur, il faut la négocier, il faut la défendre, et souvent la défendre auprès d'autres... d'autres jeunes qui vous reprochent de lire ou d'être un intello ou une intello, etc. Donc cette revendication-là, elle est encore plus forte. Donc c'est pas dit que les publics adolescents lecteurs soient les premiers à basculer du côté de l'économie du livre numérique pour cette raison-là. Par contre, il y a sans doute des choses à expérimenter, à tester. Vous avez cette latitude-là d'essayer ce que vous faites par ailleurs sur d'autres volets. Donc je pense qu'il faut être conquérant. Pour l'instant, la difficulté, c'est que les éditeurs sont peut-être pas très téméraires sur ces questions-là, et donc on pourrait envisager du livre augmenté, des livres qui ont d'autres formes de médiation. Les dispositifs, pour l'instant, n'ont pas les plateformes n'ont pas de fonction sociable du tout, ce qui est pas en faveur de public jeune. Parlons pas de public adolescent, mais de public jeune, c'est pas très fun. Ce sont des plateformes qui sont quand même assez austères, où on retrouve des formes classiques d'accès aux livres, thématiques. On pourrait envisager des choses qui soient beaucoup plus rigolotes que ça. Peut-être que vous avez des idées ou que vos lecteurs en ont. Donc nous, on a eu dans les entretiens plein de bonnes idées venant de vieux lecteurs qui ont des idées pour faire lire les plus jeunes. Donc il faut, à mon avis, dans cette phase d'expérimentation, expérimenter tout bêtement ce que vous avez fait sur d'autres formes.
Sur les jeunes, il y a quand même deux biais peut-être auxquels il faut être attentif. C'est le premier, c'est qu'on est en bibliothèque et que du coup, il y a quand même une catégorie des jeunes 18-24-20-25 qu'on ne va pas retrouver tellement en bibliothèque. Pourquoi ? Notamment parce que l'effet cumulatif, je m'inscris dans cette bibliothèque puis dans une autre, ne fonctionne pas. Et du coup, c'est des jeunes qu'on va peut-être tendanciellement retrouver à l'université, donc peut-être déjà inscrits à la BU et donc pas à la BM. Bon, il y a peut-être des choses comme ça qui jouent. En tout cas, il y a ce biais qui intervient. Et puis le deuxième biais peut-être qui intervient aussi pour la lecture des jeunes, c'est tout simplement la constitution du catalogue et les capacités graphiques des livres, enfin de l'offre tout simplement. On va retrouver assez peu de bandes dessinées et plutôt des romans, et donc du coup il faudrait tester, il faudrait avancer dans cette analyse, dans ces tests, avec une offre renouvelée et développée sur des catégories de lecture qui s'adressent plus aux jeunes.
Céline Viguier-Ville de Paris. Il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il y a un accès distant à Bibook, ou est-ce qu'il faut se rendre en BM à Grenoble pour pouvoir télécharger les ouvrages ? Ça, c'était ma première question. Et effectivement, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Si les jeunes n'empruntent pas, c'est tout simplement parce qu'ils trouvent, via les sites pirates, des fanfictions et des romans qui leur correspondent. Tant que nos éditeurs de livres actuels refuseront de rentrer dans PNB, on restera sur Gallimard. Et Gallimard n'est pas le premier éditeur lu par les jeunes aujourd'hui.
Alors pour répondre sur la question de faut-il être présent, il faut être présent pour s'inscrire à la bibliothèque, donc il faut être inscrit, et après il y a un accès distant. Toute la difficulté d'être inscrit et d'être informé de l'existence, parce que en plus avec ces problématiques de DRM, etc., les manipulations sont loin d'être faciles. Donc vous avez raison, c'est plus facile de télécharger légalement 6000 romans que d'emprunter un livre sur Bibook. Voilà. Donc je ne sais pas si la conclusion qui devrait en être tirée, mais à mon avis, il va falloir quand même envisager le fait de simplifier, parce que les manipulations ne sont pas du tout aisées. Ouais.
Je n'ose plus toucher le micro, moi. Et du coup, effectivement, encore une fois, on va retrouver 90% d'inscrits sur Bibook qui sont isérois, dont je ne sais plus exactement, mais 80 ou 85% de grenoblois. Il y a ce biais qui intervient, alors qu'effectivement l'emprunt est distant, hein, on peut tout à fait emprunter, et il y a certains emprunts qui se font depuis Nîmes et d'autres départements.
Bonjour, vous avez centré votre étude sur PNB, j'aurais aimé savoir s'il existe, et vous avez évoqué très rapidement les 18-24 ans qui sont éventuellement inscrits à l'université et en BU, et j'aurais aimé savoir s'il existait le même type d'études sur les plateformes plus académiques et si elles donnaient des résultats singulièrement différents.
Alors non, nous sommes pour l'instant restés sur PNB. Nous n'avons pas commencé par étudier les ouvrages, enfin les plateformes de livres académiques. Souvent, les sociologues ont ce travers-là. Je tiens quand même à le dire pour nous dédouaner. Souvent, les sociologues s'intéressent à leurs propres pratiques savantes. Donc, vous trouverez énormément de travaux sur l'édition numérique et les logiques d'usage. Alors, un peu moins sur les logiques d'usage, quand même, faut être honnête, que sur les enjeux scientifiques, mais honnêtement, si on se place en sociologie d'innovation classique, c'est-à-dire pour moi Calon, Latour, etc., il y a très peu de différence entre ces usagers de l'édition scientifique et ceux qui la font, qui sont quand même un peu les mêmes. Donc, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas vraiment de travaux en sociologie de la réception ou sociologie des usages, même si c'est pas tout à fait ce qu'on a fait. Hein. On est plutôt dans une position un peu hybride, mais vous trouverez beaucoup de travaux sur les enjeux de l'édition scientifique qui, de ce fait-là, rencontre quand même largement les pratiques aussi des scientifiques. Même si, y a des choses à dire, mais les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes pour nous quand même. Parce que les formes de circulation des écrits, les formes de lecture, les enjeux, paradoxalement, nous paraissent plus faibles sur l'édition scientifique. Parce que c'est connu depuis plus longtemps, peut-être. Même si l'impact sur les bibliothèques universitaires en termes de budget est fort.
En fait, ce n'était pas vraiment ça la question, du coup j'ai du mal à la formuler. En gros, il y a toute une offre d'e-book qui se développe à destination non pas des chercheurs, ni même des doctorants, mais à destination des premiers cycles universitaires, donc en gros L et M1, on va dire, et qui aujourd'hui, dans les quelques bibliothèques qui testent, mais je ne suis pas sûre justement qu'il y ait une étude plus large, rencontre très peu d'écho en fait. Alors que paradoxalement, l'édition, alors que j'ai appelée académique, mais qui est l'édition manuelle, tend à se développer massivement et du coup à abandonner l'imprimé. C'est-à-dire qu'on a l'impression. Et du coup, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait un déport effectif des jeunes qui n'en prennent pas en BM vers les BU ou pas.
Ouais. Alors, on a de toute façon un effacement dans les données qu'on a nous. Je vous l'ai dit, les jeunes sont ceux qui lisent pas le plus. À quelques exceptions près, on a quand même des forts lecteurs parmi les jeunes. On a fait un entretien notamment avec un jeune garçon étudiant qui s'amuse à... D'ailleurs, quand j'ai fait l'entretien, il avait un stock de livres qui s'amuse à les emprunter dans plusieurs bibliothèques du réseau et qui fait sa petite tournée pour les déposer tous et qui est en même temps un lecteur d'e-book compulsif. Donc on a ce type de profil-là. Lui, il était content d'emprunter du livre numérique, même s'il était très culpabilisé sur le fait de les emprunter parce qu'il avait peur de les avoir sur sa liseuse et de les oublier. Alors que quand effectivement il avait sa pile de livres, on voit bien qu'il les oubliait moins facilement. Donc on a ces profils-là, mais globalement, on a quand même chez les jeunes des étudiants qui lisent peu. Moi, je suis prof et je sais qu'ils lisent peu, effectivement, parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce que la problématique n'est pas celle-là. Voilà. Ils sont beaucoup en bibliothèque pour travailler, réviser. Il y a peu de lecture passion, il y a peu de lecture plaisir. Il y a un resserrement autour de, pour ceux qui sont les plus sérieux, d'une lecture qui va être une lecture très utilitaire et pratique. Et donc, à ce titre-là, dans notre enquête sur les usages de la bibliothèque en général, on retrouve plutôt les actifs, mais on avait fait une enquête avec Emmanuel Pedler aux environs des années 2000. Et on trouvait déjà cette différence entre les actifs qui étaient plutôt éclectiques, plutôt engagés dans les pratiques de lecture diverses, et puis des étudiants qui avaient un spectre de curiosité qui était plutôt resserré. Donc l'absence par rapport au livre Bibook, je pense que c'est plutôt, comme tu le disais, un retrait par rapport à ce type de lecture-là, qui peut être un retrait passager. L'enjeu, c'est de savoir comment on rattrape, avant le fait que les gens reviennent avec un enfant, comment on rattrape ces publics-là. Et je pense que faire une offre bibliothèque en salle de lecture, ce n'est pas forcément la façon la plus adaptée, me semble-t-il, parce que sinon, il y a une éclipse qui est un peu longue pour certains lecteurs, qu'on pourrait tout à fait rattraper par d'autres moyens, précisément leur disant vous pouvez lire, emprunter des livres sans avoir à vous rendre en bibliothèque. Voilà. Ce n'est pas ce qui est fait.
Juste un élément pour compléter. Encore une fois, et il faut faire attention au biais. Des fois, c'est quand on pose des questions sur les lectures, qu'est-ce que les jeunes en l'occurrence, entendent par lecture ? Et non seulement on va déclarer ce qu'on entend, ce qui nous paraît légitime ou en termes de lecture, ou ce qui nous paraît légitime aux yeux de celui qui nous pose la question, donc on va donner une réponse qui va s'adapter à celui qui pose la question. Et ici même, dans cette salle le mois dernier d'ailleurs, il y a eu une enquête qui avait été restituée et qui montrait très bien que les jeunes déclaraient finalement très peu de lecture et qu'en réalité, quand on rentrait dans le détail, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de fanfiction, qu'il y avait beaucoup de lecture, mais supposée, dite, en tout cas d'un point de vue de la société, vue comme illégitime et qui n'était pas déclarée comme telle, puisqu'on travaille toujours sur du déclaratif. Donc, du coup, ça pose cette question. Et puis, sur les lectures universitaires, scolaires universitaires, c'est vrai qu'on a un resserrement en fonction de la filière d'études, mais on a un resserrement, effectivement, sur des lectures pédagogiques qui fait que la variation des lectures, encore une fois, qui varie en fonction des filières, donc des disciplines, comme je vous renvoie aux travaux de Bernard Lahire sur les manières d'étudier, un travail dont il a été question, voilà, on a ce resserrement et il faut prendre donc en compte les phases d'âge qu'on traverse, quoi.
C'est une petite remarque, mais il y a effectivement, on vous l'avait bien dit, c'est une étude sur c'est pas tant le lectorat finalement que les emprunteurs en fait de livres numériques. Mais il y a quand même un décalage, vous l'avez un peu suggéré, de centre. Non, comme on dit, il y a le pays réel et le pays qui vote, en quelque sorte. Là, c'est un peu la même chose, peut-être, entre ce que lisent les gens réellement, enfin, dans la vie courante, et qui échappent à l'offre des bibliothèques, pour un tas de raisons, pas toujours très claires, d'ailleurs, en fait, hein, personnelles, sociales, etc. Mais de même que vous avez dit, les lecteurs, les jeunes lisent beaucoup de choses qu'on ne trouve pas, du coup, dans l'offre numérique. Il y a aussi un domaine qui n'est pas présent, même, je pense, tout simplement, dans l'offre numérique en bibliothèque actuellement, c'est le roman sentimental, par exemple, ou la fantaisie, ou des choses comme ça, qui sont en fait beaucoup lus. En réalité, que ce soit en livre papier ou en livre numérique, il y a une offre réelle, mais nous ne la présentons pas. Donc est-ce que ça ne nous prive pas finalement d'une part de lectorat ? Et puis l'autre remarque, c'est sur la présence des jeunes en bibliothèque, en tout cas dans les bibliothèques de lecture publique. En réalité, ils sont très présents, mais ils échappent beaucoup au système parce qu'ils ne s'inscrivent pas. Ils occupent effectivement de l'espace, ils sont là, mais ils apparaissent très peu dans nos statistiques de toute façon.
Oui, c'est toujours la question de est-ce qu'on comptabilise les inscrits ou les présents, ceux qui empruntent ou ceux qui sont dans l'espace, dans les lieux. J'ai plus l'élément de réponse que je voulais vous apporter.
Mais sur les lecteurs de livres sentimentaux qui sont effectivement des forts lecteurs, il y a un ouvrage déjà ancien de Bruno Pecchino sur la lecture de romans sentimentaux où effectivement il fait une enquête ethnographique, il montre combien il est sur les marchés, il regarde comment les femmes, ces femmes-là qui sont des femmes d'origine populaire, qui lisent énormément, dealent un peu leurs livres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une offre de livres numériques qui soit très présente en livres sentimental. Il y en a sans doute un peu. Après, sur la question des jeunes, il faut être un peu pragmatique aussi. Concrètement, la France n'est pas un pays jeune, on n'est pas en Algérie. Donc le fait que vous ayez un positionnement par rapport à des publics d'âge plutôt moyen et vieillissant, en soi, n'est pas spécialement choquant si on regarde strictement en termes de moyens et de stratégie. On n'est pas dans un public qui rajeunit. Vous avez en plus un public qui est rétif. Alors c'est un public à conquérir sans doute. Et peut-être que si vous êtes dans une logique qui n'est pas une logique comptable, mais une logique d'engagement, il faut aller le chercher. Mais strictement, le fait que vous ayez des dispositifs qui ne s'adressent pas spécialement à ces publics-là, qui sont des publics absents en bibliothèque comme au cinéma, au théâtre, etc., qui s'absentent, c'est pas en soi extrêmement choquant comme dispositif. C'est un peu logique. Mais même si vous le reprochez, c'est bien, effectivement, que ça soit difficile. C'est un public difficile. Donc ça suppose que vous y mettiez beaucoup plus d'énergie que pour attraper les publics d'âge moyen qui vont venir un petit peu tout seuls parce qu'ils seront... Ils seront présents dans vos dispositifs, etc. Après, la question, c'est bien pour nous la question de la définition de ce que c'est que de la lecture publique aujourd'hui. Et ça vous renvoie à ce que je vous disais un petit peu à la fin, à vos missions et à ce que vous souhaitez faire. Cette lecture publique qui est inventée dans un régime numérique comme elle a été inventée à d'autres moments de votre histoire, ça vous renvoie aux fondamentaux. Quels sont vos publics? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quel sens ça a? Je ne suis pas sûr qu'effectivement... offrir la découverte de choses qui se lisent toutes seules par ailleurs, ça soit très pertinent aussi. Peut-être que ce n'est pas strictement votre rôle. C'est des questions que vous posez depuis longtemps. Mais par contre, ça vous renvoie très fortement à ça, surtout que vous pouvez le constater un peu plus facilement et peut-être rêver un peu moins à vos publics en les constatant davantage, peut-être.
Donc encore une fois, sur le catalogue, on a des résultats qui sont assez qui interrogent, quoi. D'un point de vue traditionnel, on va dire, dans les enquêtes sociologiques, on s'aperçoit statistiquement, c'est selon des tendances statistiques, il y a toujours des exceptions à la règle, mais qu'on a des lectures qui sont un peu différenciées entre les femmes et les hommes, plutôt les femmes vers le roman, pour caricaturer complètement les choses, et les hommes vers les aspects plus techniques, etc. En l'occurrence, sur Bibout, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on va trouver des hommes et des femmes de façon tout à fait égale dans les lectures fiction, non-fiction. Ces distinctions n'apparaissent pas. À quoi sont-elles dues? Je ne peux pas le dire comme ça. Mais par contre, l'offre peut-être est déterminante aussi. Peut-être que l'homme, les capacités, encore une fois, graphiques ne renvoient pas, ne permettent pas d'avoir accès à des lectures auxquelles on pourrait s'attendre à un moment donné ou pas. On a des résultats qui sont surprenants parfois et la question se pose de la place de l'offre dans ces résultats.
Oui, juste une question sur l'aspect purement quantitatif. Est-ce que vous avez pu constater une évolution positive de l'usage? Globalement, par exemple, en nombre de téléchargements, comment ça évolue au fil des années? Est-ce que ça progresse relativement beaucoup ou pas?
Alors, le dispositif est assez récent. Il a été mis en place en septembre 2014. Donc il est tout à fait... au fil des années, on ne peut pas trop le dire encore aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, sur la petite période sur laquelle on a travaillé, on a effectivement une évolution quantitative positive. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui vont s'inscrire sur Bibout et télécharger des livres numériques. Oui, effectivement.
Oui, bonjour, Jean-Claude Dutard, donc Ville de Paris. Il me semble quand même qu'on parle de choses un petit peu différentes, parce que les jeunes, ils sont présents dans les bibliothèques, y compris les étudiants, mais ils sont en partie fréquentants et pas forcément inscrits. Et là, on parle quand même de pratiques de prêt. Les pratiques de prêt, qu'elles soient en numérique ou qu'elles soient en documents physiques, il n'y a pas de raison qu'elles soient à ce point-là différentes. Les étudiants qui sont inscrits, sachant quand même qu'une bonne partie n'est pas inscrite, les étudiants qui sont inscrits sont de faibles emprunteurs, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils lisent utilitaires, etc., etc. Ce ne sont pas ces étudiants inscrits qui empruntent des fictions physiques. Il n'y a pas de raison qu'ils empruntent des fictions numériques. Et si on veut regarder la pratique des jeunes en termes de lecture numérique, il faudrait utiliser d'autres outils. Par exemple, est-ce que la bibliothèque est abonnée à Story Player ? Est-ce que les jeunes utilisent les tablettes ? Est-ce qu'il y a des heures du compte numérique ? Etc., etc. Donc là, il y a d'autres outils. PNB n'offre que des ouvrages adultes. Il n'y a pas une offre jeunesse. Donc on ne peut pas comparer une lecture jeunesse qui déjà n'existe pas sur PNB. Après, sur PNB, effectivement, c'est essentiellement une œuvre avec des éditeurs qui ont accepté d'y être alors que d'autres n'y sont pas. C'est une œuvre fictionnelle, etc. Et PNB n'a jamais prétendu, ni la lecture numérique, à être une offre de démocratisation, du moins en France. Si j'étais aux États-Unis, je me poserais d'autres questions parce que je peux être très, très, très loin d'une bibliothèque, encore plus loin d'une librairie, etc. Et donc, aux États-Unis... le livre numérique téléchargé, c'est des offres souvent très populaires, du roman sentimental, etc., ce qui n'est pas le cas en France, même dans l'offre, je dirais, commerciale. Simplement, je dirais que l'offre de livres numériques, l'intérêt, c'est qu'elle s'adapte à une vie nomade, qui peut être celle, effectivement, des seniors d'aujourd'hui, tant mieux, pourquoi pas. Notre but en tant que bibliothécaire, c'est toujours de répondre à des usages. Cette offre nomade, elle se déplace, elle existe, bah, pourquoi pas l'offrir ? Et ça peut permettre effectivement à des gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de le prendre de emprunter quand même des livres alors qu'ils ne vont pas venir physiquement à la bibliothèque. Voilà. Ce n'est pas un but démocratique. Je pense que la démocratisation des bibliothèques, c'est autre chose. Ça passe parce que M. Mola parlerait de sa librairie. Il dirait que la librairie doit être un lieu de vie et un lieu d'action culturelle. Je pense que la démocratisation, elle passe par ces aspects aussi en bibliothèque, lieu de vie, lieu culturel, etc., mais pas par strictement l'offre numérique. Voilà. Juste pour dire un tout petit truc, c'est que du côté de la ville de Paris, on a une expérimentation qui est quand même très, très, très récente, hein. Entre octobre et aujourd'hui, il y a 4500 usagers quand même différents qui ont emprunté donc des livres numériques. Il y a un public fidélisé qui commence à exister. Donc 4500 personnes différentes, ça fait quand même une bibliothèque moyenne. Donc c'est quand même une offre intéressante. Et il y a 1000 personnes qui n'empruntent que du livre numérique. Voilà, avec des gens qui habitent hors de Paris ou relativement lointains, etc. Donc ça correspond justement à cet usage nomade. Et c'est un usage où on n'a pas forcément envie ou possibilité de passer régulièrement à la bibliothèque. Par contre, effectivement, c'est la même chose. Une surreprésentation des seniors, une surreprésentation des CSP, etc., etc. Des gens qui sont relativement quand même à l'aise avec le livre numérique, avec le téléchargement, etc. Mais qui correspondent aussi à une disponibilité de temps, etc., etc. Et bon, les étudiants, ils ne sont pas présents, mais... Dans les prêts physiques, et je les ai comparés, les prêts physiques des étudiants ne sont pas plus importants que les prêts numériques des étudiants. Voilà.
Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est une offre de prêt qui permet l'emprunt, donc on retrouve la même type de structure. Il faut souligner aussi que dans l'enquête qu'on a faite, où on a intégré une partie qui questionnait les usages du numérique, les jeunes ne sont pas ceux qui ont les usages les plus éclectiques du numérique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils ont aussi... pour certains d'entre eux, une logique de spécialisation et de répertoire qui est restreint. Il ne faut pas oublier non plus que le numérique, en France, a beaucoup de services qui ne sont pas spécialement destinés aux plus jeunes, parce que la France n'étant pas un pays jeune, on a des services qui sont valorisés, qui sont mis en avant, qui ne sont pas faits pour les plus jeunes nécessairement. Donc, y compris sur les aspects numériques, les services les plus innovants, les plus dynamiques, sont pas nécessairement, y compris commerciaux, ne sont pas faits pour les plus jeunes. Donc on retrouve cette structure d'usage du numérique aussi, où on a des personnes qui sont diplômées, qui ont des usages très diversifiés, qui jouent aux jeux vidéo maintenant, qui empruntent tout un tas de choses, qui consultent énormément de sites, qui sont actifs, qui commentent sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, on retrouve cette structure-là avec une question toute bête qui consiste à dire « Bon, êtes-vous abonné sur Facebook ou pas ?» Oui, très bien, c'est massif et c'est d'autant plus massif que la CSP augmente. Très bien, les jeunes, là, sont assez représentés également, bien sûr. Mais après, quand on regarde l'activité, c'est-à-dire est-ce que vous postez des contenus et des contenus culturels sur Facebook, bah, évidemment, les jeunes sont en retrait. Et ceux qui postent le plus de contenu culturel sur les réseaux sociaux sont les CSP+, les actifs dont on a parlé, avec un décrochage sur les plus âgés. Mais on retrouve cette structure-là. Donc on a effectivement ce croisement entre des choses qui ont trait à l'emprunt de livres numériques. Donc on a des couches qui se superposent, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des effets qui sont en partie conjuguée, mais pas tout à fait, pas strictement non plus, ce qui fait que cette pratique-là ne ressemble pas exactement, n'est pas un décalque de l'emprunt de livres physiques, de livres imprimés, sinon tout le monde aurait fait éventuellement la conversion, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses qui ont trait aux façons d'habiter l'espace numérique. Par contre, ça ouvre une réflexion sur le fait de savoir si en dehors de ces services de prêt numérique, la bibliothèque peut être présente dans un espace du lire ensemble qui se transpose dans la sphère numérique, effectivement, avec des aspects dont je parlais peut-être d'éducation au numérique qui sont loin d'être évidents pour les plus jeunes, avec un rapport aux données, aux traces d'usage et à l'identité numérique qui est pas toujours bien clair, quoi. Voilà. Et donc là, il y a quand même un boulevard.
Sur ouais, il est lourd. Sur l'aspect nomade, alors il faut qu'on prenne contact, puisque on a une étude à l'ENSIB qui sort précisément sur cette dimension du nomadisme dans l'utilisation du livre numérique. Donc ça serait particulièrement intéressant. Mais là encore, il faut toujours être attentif au biais qu'il peut y avoir dans les enquêtes. Et là, en l'occurrence, on est sur Paris, donc sur un territoire qui a ses spécificités et du coup qui entraîne certainement aussi des pratiques qui ont elles aussi leurs spécificités. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que les résultats que vous obtenez sont justes, certainement, mais on ne peut peut-être pas, en tout cas, les généraliser. Il faut voir comment le prêt de livres numériques s'effectue dans une commune plus rurale où la logique des déplacements n'est peut-être pas la même, etc.
Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Ça sera le mot de la fin, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel et Olivier, pour cette intervention.